Bonsoir, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, et son bureau sur une chaise éjectable. Outre une plainte introduite contre elle au Conseil d'État pour violation de l'article 139 du règlement intérieur, une pétition pour la destitution du bureau de la Chambre basse du Parlement a déjà réuni plus de 200 signatures. Le député Fabrice Puella, initiateur de cette action soutenue par ses collègues de l'opposition ainsi que ceux du Cap pour le changement, se dit déterminé à faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale qui, selon lui, ne respecte pas les lois qui régissent cette institution. Le président du groupe parlementaire PPRD et Ali accuse pour sa part les initiateurs de la pétition de corrompre les députés pour qu'ils signent leurs documents. Comment analyser cette double action judiciaire et parlementaire contre le bureau Mabunda? Quelles peuvent en être les conséquences dans le contexte politique actuel? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Gratien de Saint-Nicolas Iratchan, député national élu de Bougnaville dans la province de l'Ituri, cadre du regroupement politique MS et soutient la pétition contre le bureau Mabunda. Gratien de Saint-Nicolas Iratchan, bonsoir.
Bonsoir messieurs les journalistes et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Mais également André Tamboué Katamboué, bonsoir.
Bonsoir messieurs les journalistes et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes député national et cadre du PPRD parti, membre du Front commun pour le Congo FCC, élu du territoire de Katakokombe dans la province du Sankuru et contre cette pétition de destitution. Et enfin, Alphonse Maindo, docteur en sciences politique de l'université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani en République démocratique du Congo. Professeur Alphonse Maindo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux auditeurs de Radio Okapi qui réagissez à notre thème de ce soir. Floribert Mboma depuis Gemenadi, je suis pour le départ de Mabunda car elle n'est pas au service du peuple congolais mais plutôt au service de son autorité morale. Marc Grégor Prosper Joël dit les allégations du président du groupe parlementaire PPRD n'ont aucun sens. Initier une pétition contre un bureau qui a violé délibérément son règlement intérieur ne peut en aucun cas faire l'objet de ce genre de chantage. Lorsque son groupe parlementaire avait signé la pétition initiée par l'honorable Jean-Jacques Mamba du MLC pour destituer l'honorable Jean-Marc Kabound, est-ce qu'il y avait eu objet de quelconque corruption, s'interroge-t-il. Étienne Kalonda dit « Je suis bien persuadé que Fabrice Puella est bel et bien manipulé par les cadres pro-tshisekedistes de l'UDPS. Vu la tension politique actuelle, il est pour Mabunda ce qu'était Jean-Jacques Mamba pour Kabound. » Cédric Van Omboum dit « Cherchons l'essentiel qui est la construction de l'État congolais qui est encore au lit de l'hôpital. Évitons vraiment ces guerres inutiles. » Et enfin, un auditeur anonyme qui dit « Rien de nouveau, c'est la RDC dans ses œuvres. » Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
La présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, et son bureau sur une chaise éjectable, outre une plainte introduite contre elle au Conseil d'État pour violation de l'article 139 du règlement intérieur, une pétition pour la destitution du bureau de la Chambre basse du Parlement a déjà réuni plus de 200 signatures. Le député Fabrice Puella, initiateur de cette action, soutenu par ses collègues de l'opposition ainsi que ceux du Cap pour le changement, se dit déterminé à faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale qui, selon lui, ne respecte pas les lois qui régissent cette institution. Le président du groupe parlementaire PPRD et Allier parle de corruption pour faire aboutir cette pétition de destitution du bureau de l'Assemblée nationale. Récit ici de Michel Kifine Dangoy.
À en croire l'auteur de la plainte devant le Conseil d'État, la lutte pour la démission ou la destitution de Jeannine Mabunda et son bureau a commencé depuis juillet dernier, avant même que l'actuelle crise ne commence. Fabrice Puella.
Depuis le mois de juillet, début juillet, nous avons écrit au bureau de l'Assemblée nationale, nous l'avons mis en demeure de démissionner en vertu de l'article 139 alinéa 6. Malheureusement, le bureau ne nous a pas rencontrés. Nous nous en remettons au Conseil d'État.
Didi Manara, président du groupe parlementaire parlementaires PPRD et alliés dénoncent la déstabilisation de l'institution parlement par des pratiques de corruption.
Certains inciviques proposaient aux honorables députés un montant de 7000 dollars américains en échange d'une signature pour la destitution du bureau de notre chambre. Multiplier les 7000 par 500 députés, ça fait 3 500 000 dollars américains qui ont été déboursés, parce que certains collègues ont eu ça, et nous avons des preuves.
Interrogés, certains députés de l'opposition se disent étonnés que le FCC dénonce aujourd'hui une pratique qu'il a entretenue durant plusieurs années. Le député Jérôme Lusenge précise avoir apposé sa signature à cette pétition, notamment parce que Jeanine Mabunda ne respecte pas le président de la République.
Gratien de Saint-Irachan, député national élu de Bougnaville dans la province de l'Ituri, cadre du regroupement politique MS, et vous soutenez la pétition contre le bureau Mabunda. Pourquoi une pétition, tout de suite une pétition pour faire démettre tout un bureau? Est-ce juste pour non-respect de l'article 39 de votre règlement intérieur de l'Assemblée nationale?
Bon, il faut tout simplement se calmer. Moi, je ne sais même pas pourquoi le bureau de l'Assemblée nationale ou bien le FCC est en train de s'agiter. Donc, les collègues du FCC devraient tout simplement se calmer parce que nous sommes face à un processus, à une procédure réglementaire du parlementaire. Donc, nous savons qu'il est dit dans l'article 31 de notre règlement qu'on peut signer une pétition. C'est une démarche légale où on peut initier donc des signatures, et si les collègues adhèrent, s'il s'agit de la présidente, on voit les un quart, donc au moins 125 députés signent, et si c'est un membre des bureaux autre que la présidente, à ce moment-là il faut 50 signatures. Donc c'est une démarche légale. Et on ne peut pas mettre collectivement les membres du bureau ensemble pour les déchoir, mais on statue cas par cas. Et c'est ce qui est en train de se passer, on va statuer cas par cas, et c'est comme ça qu'on est en train de réunir des signatures. Qu'est-ce que nous reprochons au bureau? En fait, ce n'est pas la première fois qu'on a voulu initier cette pétition. C'est presque une quatrième fois, parce qu'il y avait d'autres pétitions qu'on initiait, mais sur base de concertation, ensemble, on cherchait des terrains d'attente, on laissait tomber cette pétition, en donnant des reproches, des observations au bureau de l'Assemblée pour qu'il y ait changement. Personnellement, moi j'ai toujours contacté la présidente pour lui dire telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas. Et ce n'est même pas moi seul. C'est beaucoup de députés qui passent par les bureaux et qui donnent des conseils. Mais malheureusement, quand on trouve à un moment donné que les observations ne sont pas suivies, ça donne lieu à des problèmes. Qu'est-ce que nous reprochons au bureau? Je vais aller directement dans la matière pour que
allez-y,
je ne prenne pas trop de temps.
Allez-y.
Vous savez, nous avons le devoir d'être députés. Donc nous sommes des députés élus par la population. Sur base de l'article 101, nous représentons la nation et nous avons ces mandats-là. Alors, nous avons notre pouvoir constitutionnel au niveau de l'article 138, où nous devons avoir des moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes de l'Assemblée nationale, bien sûr. Nous devons contrôler le gouvernement, nous devons contrôler les entreprises publiques et nous devons contrôler les établissements et services publics.
Alors, tout ça est connu, honorable. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Madame Mabunda et à tout son bureau aujourd'hui?
Monsieur le journaliste, je suis en train de le dire. Donc, je l'ai dit, nous avons ces pouvoirs-là. Alors, si jamais on ne sait pas contrôler les gouvernements, on ne sait pas contrôler les entreprises publiques, ni les établissements et services publics, à ce moment-là, on n'est pas député. Nous sommes en train de dire quoi? Il y a plus de 50 initiatives parlementaires qui sont bloquées. Je pense que la population qui nous suit à ce moment sait qu'il n'y a jamais eu de débat sur le développement de ces pays. Il n'y a jamais eu de débat sur la corruption qui est en train de ronger les pays. Il n'y a jamais eu de débat sur des fraudes ou des questions d'enseignement. Aujourd'hui, on ne paye pas les gens. On n'a jamais eu de débat sur les fonds de développement du pays, mais sauf des débats sur des règlements des comptes individuels, soit des positionnements politiques. Donc, en bloquant les initiatives parlementaires, à ce moment-là, vous ne voulez pas que les députés puissent contrôler l'État congolais. Et c'est normal qu'on arrive à des corruptions et qu'on arrive à des fraudes et qu'on arrive à des personnes intouchables qu'on ne peut pas saisir, même interpeller, parce que nous avons des questions orales.
orales, écrites, des questions d'actualité, des interpellations, des commissions d'enquête, des auditions par des commissions. Mais quand vous évaluez, vous trouverez que tous les députés, et ce ne sont pas seulement les députés de l'opposition, que ce soit les députés du FCC, du CACH et même de l'opposition, se plaignent parce qu'ils ne sont plus considérés et là, on ne peut pas travailler à tant qu'assemblée. Et la population se moque de nous, ils disent, mais vous êtes quel genre de députés parce que vous ne faites rien. En fait, nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce que c'est le bureau qui est en train de nous bloquer. Il y a aussi la violation des règlements intérieurs par le bureau de l'Assemblée nationale. Violation des procédures parlementaires. Vous trouverez que parfois, on est en train d'utiliser abusivement des motions réglementaires. Des motions qui ne devaient pas perturber la séance, mais on va l'utiliser. Mais si nous allons même dans les cadres financiers, il y a une gestion catastrophique de la situation financière de l'Assemblée nationale. S'il faut aller dans la gestion du personnel, il y a un problème avec la gestion du personnel administratif, le personnel politique de l'Assemblée nationale. Plusieurs membres des familles biologiques et politiques qui sont au bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de nomination, on fait des cabinets, mais on est en train de faire des choses qui n'est pas de la population. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème.
Alors, Gratien de Saint-Nicolas Irachan, si je dois vous résumer, contre le bureau Mabunda et la présidente Jeannine Mabunda elle-même, vous reprochez plusieurs dérapages et c'est ça qui est rapporté dans votre pétition en cours en ce moment.
Exactement. Donc c'est la violation de la Constitution et la violation du règlement intérieur. Et c'est quelque chose qu'on peut prouver ligne par ligne et nous avons à démontrer toutes les situations d'irrégularité que nous avons connues au sein de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas un jeu politique, mais c'est tout simplement un fait qui bloque le pays et qui fait en sorte que le pays n'avance pas et la population se plaint.
Merci Gratien de Saint-Nicolas Irachan. Nous revenons à vous tout à l'heure puisque c'était un débat. André Tamboué Katamboué, vous êtes député national et cadre du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, élu du territoire de Katakokombe dans la province du Sankuru. Vous rejetez la pétition en cours contre la présidente Jeannine Mabunda et le bureau de l'Assemblée nationale. On peut savoir pourquoi?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que je vais d'abord commencer par vous remercier d'avoir bien choisi le terme en disant les bureaux de l'Assemblée nationale sur une chaise éjectable. Je voudrais que l'ensemble des auditeurs de la radio Okapi retiennent que depuis 2 jours, l'Assemblée nationale a voté une motion de soutien à son bureau. Donc, à l'heure qu'il est, les bureaux qui est l'émanation et la majorité des députés qui composent l'Assemblée nationale n'est plus sur une chaise éjectable, mais c'est sur une chaise constamment enviée par les autres familles politiques qui ne s'y sont pas senties représentées.
Alors André Tamboué, aujourd'hui, entre la pétition qui semble avoir dépassé les 200 signatures et votre action de soutien, rencontre combien de signatures ou d'appui des députés aujourd'hui?
Exactement, je vais y revenir tout en voulant séparer les deux actions. Il y a d'abord l'action en justice au Conseil d'État, entamée par notre collègue Fabrice Puella. Il s'est appuyé, vous avez entendu l'honorable Irakien, peut-être n'est pas comprendre votre exposé, en faisant référence à l'article 139, alinéa 7 de notre règlement d'ordre intérieur, qui dit qu'à la fin de l'exercice budgétaire, il est chargé au bureau de l'Assemblée nationale de présenter le rapport de gestion financière de l'exercice qui vient de s'achever et cela c'est à l'ouverture de la session de mars et au plus tard les 30 jours, les 30 premiers jours. Ce qui a été fait pour les cas échéants, le 15 avril de l'année en cours, notre bureau a déposé le rapport de gestion de l'exercice 2019. Alors, l'aventure qui s'est trame? Ici, nous sommes dans un contexte où la majorité parlementaire, qui a été dite artificielle, qui a été dite surnaturelle, qui a été dite colpatée, fabriquée et tout, devient aujourd'hui la majorité à racheter, la majorité à côtoyer, la majorité à récomposer et à bâillonner. Et c'est dans ce contexte-là que vous voyez tantôt on multiplie les actions sur le plan politique et des autres manières avec la pléthore des affaires de l'autre côté. De l'autre côté, on veut préparer au sein même de l'institution enviée d'autres mécanismes pour créer tout simplement ce qu'on a appelé l'instabilité au sein de l'institution, qu'on ne s'est pas bougé à cause du caractère constant des membres, de la majorité des membres qui le composent.
Alors André Katamboué, s'il vous plaît, nous sommes en débat, vous ne pouvez pas monopoliser éternellement la parole, permettez qu'on puisse la distribuer à tous. On a compris votre idée, vous accusez le camp de la pétition de machination pour démettre...
Je n'ai pas encore parlé de la pétition, je parlais de la
justice au Conseil d'État. Vous allez avoir la parole, s'il vous plaît, on ne se la dispute pas. Vous allez avoir la parole et quand on vous la donne, essayez de vider de manière succincte votre idée, car on n'a pas le temps indéfini pour nous. Alors, vous parlez du rapport financier qui a été déposé, alors que le règlement prévoit que le rapport ne soit pas que déposé, mais qu'il soit présenté en plénière pour débat. Est-ce que ce n'est pas ça que l'autre camp, le camp de la pétition, vous reproche?
Exactement.
Si c'est le cas, pourquoi le bureau n'a-t-il pas présenté, comme le recommande le règlement, ce rapport de gestion financière au moment qu'on vient?
En droit, il n'y a aucune théorie juridique qui résiste à la celle des circonstances exceptionnelles. Le 23 mars, tout le Congolais savait que le président de la République a proclamé l'état d'urgence au pays. Et le 15 mars, lorsque nous avons fait l'ouverture, le bureau avait communiqué qu'on suspendait toutes les activités parlementaires en raison de la pandémie, jusqu'à ce que les circonstances soient, la pandémie soit maîtrisée ou soit maîtrisable. Et c'est ce qui a fait que l'organisation des plénières n'ont pas eu lieu pendant un certain temps pour des raisons d'état d'urgence de la pandémie, qui est un fléau qui ne dépend pas de la volonté des membres du bureau ou d'un des membres du bureau. Sur ce que constitue et notre assemblée plénière, qui est l'organe suprême de par l'article 24 de notre règlement d'ordre intérieur, qui est le seul organe compétent pour acter la démission de membres du bureau, d'un membre ou de l'ensemble des membres du bureau, avait pris acte du rapport déposé à la plénière, et vous pouvez le consulter dans la plus multiple, du 12 juin 2020. Donc, le collègue Fabrice Puella, dans sa démarche, effectivement de la farce pour des raisons de consommation politique, et vous comprenez que nous sommes entrés dans la danse des violations de notre propre traité. Quant à la pétition, vous fondez sur l'article 31 effectivement de notre règlement d'ordre intérieur, la pétition repose sur un acte volontaire, pas un acte rusé ou pas de consentement rétroqué. Ici, nous avons assisté, ou nous sommes en train d'assister, à une campagne de débauchage à ciel ouvert avec des sommes colossales issues de je ne sais quel marché raté et que l'on est en train de proposer aux députés qui sont aujourd'hui supposés avoir été tués par les gens qui ont massacré, etc. Boma député, Tika policier. C'est ces députés-là qui sont devenus utiles aujourd'hui pour leur requérir une signature. Les gens parlent de 200 signatures. C'est faux et archipos parce que notre règlement d'ordre intérieur ne propose à l'article 31 que 125 signatures pour que la pétition soit valide. Si ça va atteindre ces chiffres, ils allaient déjà déposer.
Alors André Tamboué, si vous semblez avoir autant raison que vous semblez le dire, en principe, votre camp devait être serein, calme et attendre les moments des débats et les moments des conclusions de la validité ou pas de cette pétition pour justement être lavé, non?
Sur pied de l'article 64 et l'article 65 de notre constitution, le constituant a donné à chaque Congolais un devoir, celui de servir loyalement son pays. Et sur ce, et de défendre tout manquement ou toute violation de la loi et de la constitution. C'est fondé sur ces articles-là que nous sommes en train de dénoncer, parce que c'est une obligation de dénoncer. On est serein parce que vous avez vu que la majorité a voté la motion du collègue Lumeya qui a sollicité le soutien du bureau, et le collègue Fabrice Puella s'est arrogé les pouvoirs qui ne sont pas le sien sur pied de l'article 24 de notre règlement d'ordre intérieur. C'est à la plénière que revient la responsabilité de constater. Et vous avez vu le ministre de l'Intérieur, il vient d'envoyer une lettre de réhabilitation au gouverneur de Maïnombe ici, qui a déposé sa démission. Pourquoi? Parce que dépasser 30 jours, si la démission n'est pas actée par l'autorité attitrée, vous êtes reconduit à vos fonctions. Et imaginez-vous l'article 139 alinéa 7 qui parle des réputés démissionnaires. Ça ne veut pas dire démissionner d'office, non. Ce n'est pas une contrainte d'émission,
c'est une constatation de par la plénière du fait de l'établissement d'une faute, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc notre plénière, qui est l'organe suprême de notre Assemblée nationale, a constaté qu'il n'y a pas faute de gestion et les actes de l'Assemblée ne sont pas de la compétence du Conseil d'État. Et vous pouvez bien voir l'article 85 de la loi qui organise le fonctionnement du Conseil d'État, arrache au Conseil d'État la compétence de gérer des questions qui relèvent des actes de l'Assemblée.
Merci. Donc,
nous sommes ici dans une aventure à la fois juridico-judiciaire que l'on aménage dans le contexte d'une opinion largement manipulée et que l'on veut en quelque sorte dénaturer des faits et créer une sorte de plausibilité à des violations flagrantes à la fois de notre loi fondamentale qui est la Constitution.
Merci.
Et du règlement d'ordre intérieur qui constitue notre charte.
Merci André Tamboué Katamboué, le débat continue avec vous. Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani en République démocratique du Congo. Professeur, la pétition en cours contre le bureau Mabunda en ce moment est-elle crédible et est-ce que le bureau Mabunda risque quelque chose avec à la fois la pétition mais aussi la plainte auprès du Conseil d'État?
Bon, évidemment, si on regarde la question de la crédibilité, elle est toujours là. C'est la crédibilité, ça signifie que les gens qui font ça, ils croient à ce qu'ils font. Maintenant, est-ce que ça va aboutir? Ça, c'est une autre question. Je doute fort que ça aboutisse, hein, vu l'arithmétique que l'on a au niveau de l'Assemblée pour faire aboutir la pétition contre le bureau.
Pouvez-vous partager ce calcul arithmétique avec nous?
Si on calcule l'arithmétique qu'on a au niveau de l'Assemblée, on a à peu près 338 députés qui sont donc membres sur 500, qui sont membres de FCC. Et donc, si on doit passer au vote de l'Assemblée générale, disons, de la plénière, je ne vois pas comment ça pourrait basculer contre le bureau. Et donc, et je vois qu'il y a un travail qui est fait au niveau du FCC pour garder cette solidité-là. Donc, même si on allait au niveau de... si on débauchait l'un ou l'autre, je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire basculer la majorité en faveur de ce genre-là.
Alphonse Maindo, lorsque les pétitionnaires affirment, il y a encore quelques temps, c'est de la politique, hein, nous on est journalistes, on constate et on l'entend, lorsque les pétitionnaires disent qu'ils ont déjà dépassé le nombre de 200 et avoisineraient et même auraient pu, en ce moment où on est en train de parler, atteindre le chiffre de 300, vous pensez que c'est juste du saupoudrage?
Bon, alors oui, parce que vous savez qu'on est dans une guerre politique, et une guerre politique, c'est pas seulement sur le plan de affaires, mais c'est aussi une guerre de communication. Et donc, on doit déstabiliser l'adversaire en lui communiquant des chiffres. Parce que s'ils avaient déjà atteint ce chiffre-là, ils auraient déjà déposé la pétition depuis longtemps. Et donc, parce qu'ils ont déjà, ils auraient ainsi largement dépassé les minimums requis pour déposer une pétition. Or là, ils en sont à plus de 200 d'après eux, mais ils n'ont pas encore déposé, continuent à rechercher. Donc, pour moi, il s'agit ici d'une guerre de communication des chiffres pour déstabiliser l'autre et le mettre dans une situation d'inconfort et de gêne.
Alors,
il faut remettre ça dans un cadre global.
Allez-y.
Le cadre global, c'est quoi? C'est que nous sommes ici dans un contexte où il y a érosion de la confiance entre deux partenaires, les FCC et CASH, pour ne pas parler de l'UDPS, avec à leur tête Tshisekedi et Kabila, et Tshisekedi qui voudrait s'émanciper de son mentor Kabila qu'il a, avec lequel il a signé l'accord pour être président de la République. Alors, dans ce cadre global où on veut s'émanciper, alors toutes les manœuvres sont bonnes pour essayer de reprendre le contrôle, reprendre la main. Donc on veut se libérer et s'émanciper, c'est logique, et en politique, hein. Parce que quand on lit ce qui s'est passé dans la littérature, on voit bien que l'homme est libre. Fondamentalement, il est libre. Ontologiquement, même certains disent qu'il est liberté. Et donc, à ce moment-là, lorsque vous sentez qu'il y a un étau qui vous resserre, et c'est le cas en ce qui concerne le président Tshisekedi, alors tout est bon pour pouvoir desserrer, ou en tout cas détacher l'étau qui vous resserre. Et c'est ça que l'on comprend, il fait feu de tout bois pour essayer de se séparer de son allié, pour être libre, enfin, de faire l'action commune.
Merci Alphonse Mahindo. Gracien de Saint-Nicolas Iracha, c'est le moment d'écouter aussi l'avis des auditeurs. Pour vous, nous allons écouter la réflexion nous faite ici par Cyrus Dieudonné Dioka.
C'est Dieudonné Dioka, à Goma, au nom de vous. Vu ce sujet, il y a une question que je me pose. Dans tout ça, où se trouve l'intérêt du peuple congolais? Ils ont rendu ce parlement pour obéir au mot d'ordre de leur regroupement politique et non servir le peuple congolais. Gabon de ça, ça a changé quoi dans notre social et nous attendons voir s'améliorer. Nous les attendons ailleurs et non à la recherche des crises.
Alors, Gratien de Saint-Hirachan, il y a cette réflexion de l'auditeur. J'ajouterai aussi un peu l'analyse d'Alphonse Mahindo tout à l'heure. Apparemment, votre pétition n'a aucune chance d'aboutir. Pourquoi faire croire à la population qu'il y a des failles au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et que ce bureau mérite d'être démis?
Bon, je commence par remercier l'auditeur là et que sa question l'engage effectivement. Mais il faut le dire avec précision. Quand on n'a pas de bonnes personnes qui gèrent l'Assemblée nationale, c'est normal qu'il y ait des conséquences négatives dans la gestion du pays. Donc il n'y aura pas de développement. Je venais de dire par exemple, quand vous bloquez les initiatives parlementaires, quand on refuse de contrôler les ministres par exemple de budget, quand on refuse de contrôler les ministres par exemple de la défense ou les ministres de l'intérieur, c'est normal qu'il y ait un impact négatif sur la gestion du pays, mais la responsable ou les la personne responsable, c'est celui qui a bloqué les initiatives de contrôle. Parce qu'à travers les contrôles, on sanctionne. Et quand on sanctionne, on trouve une voie de sortie pour qu'on puisse rester la chose. Alors, je reviens un peu à l'article. Parce que moi, avant, j'avais suivi l'article 109, l'article 39 de notre règlement. Mais je constate que c'est l'article 139. Eh bien, je vais voir mon collègue André, qu'il puisse lire l'alinéa 6 de cet article 139, qui dit ceci. À la fin de chaque exercice budgétaire, le bureau présente à l'Assemblée plénière un rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale dans les 30 jours après l'ouverture de la session ordinaire de mars. On présente à l'Assemblée plénière et nous, jusqu'au 15 avril, on n'a pas présenté à l'Assemblée plénière. On a remis un rapport au président des groupes parlementaires qui ne constitue pas l'Assemblée plénière. Donc, il y a eu violation flagrante des règlements intérieurs. Qu'on ne puisse pas dire tout simplement qu'il y avait Covid, mais il y avait le format réduit, il y avait plénière en format réduit, mais on n'a pas traité de cette question. Donc, les camarades, les collègues Pouela a tout à fait raison de pouvoir saisir la justice. D'ailleurs, si on va à l'alinéa 7, on doit normalement entamer même des actions pénales contre les bureaux de l'Assemblée nationale. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit vraiment revoir.
Alors, grâce à vous, Iracan, on entend très bien que vous énumérez les griefs qui, selon vous, sont nombreux contre l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi mener au même moment deux actions pour démettre ce bureau ou démettre quelques membres de ce bureau? Y a-t-il crainte qu'une seule action n'ait pas suffi? Fallait-il vraiment en arriver jusqu'à la destitution?
Oui, j'allais en arriver. Donc, ça veut dire quoi? Nous sommes réglementés. Donc, quand vous voyez le Conseil d'État, ça veut dire qu'on peut attaquer tout acte qui est administratif. Et quand vous voyez la Cour constitutionnelle, ça veut dire qu'on peut voir si notre procédure est conforme à la Constitution. Donc, si un député trouve que l'acte qui a été posé, là, il juge que ça n'a pas été bien tranché, il a le droit de pouvoir saisir, si c'est un acte administratif, le Conseil d'État, si c'est une procédure qui n'est pas conforme à la Constitution ou au règlement, on saisit la Cour constitutionnelle. Donc c'est tout à fait normal. Donc nous sommes allés, à partir du mois de juillet, nous étions en vacances parlementaires, et si le collègue Pouela, qui revient des vacances, trouve qu'il faut saisir, bon, il est dans sa liberté de pouvoir le faire. Alors, ce que le professeur dit, Mahindo dit, on a 338 députés, effectivement, du SCC. Alors, le SCC craint quoi? Parce qu'il y aura un débat et il y aura vote. S'ils savent que ça va tomber, alors laissez-nous travailler normalement sur la pétition et vous allez rejeter ça à l'Assemblée plénière. C'est une démarche légale et démocratique. Alors je voulais aussi ajouter, pourquoi on ne dépose pas la pétition? Parce que le prof dit que normalement, si c'est ça, 25 signatures, normalement on aurait déjà déposé. Effectivement, on aurait déjà déposé. Mais demandez aux gens qui gèrent les bureaux, où est ce bureau de réception de courrier, depuis qu'ils ont appris qu'il y a une pétition qui est en train d'être signé massivement, ils ont déserté. Donc on a caché les chargés de réception de courriers. Même maintenant, si vous allez à l'Assemblée nationale déposer un courrier, en tout cas, ce métier, il est caché quelque part. Et on voit d'abord la nature du courrier avant de pouvoir réceptionner que ça ne soit là pas la pétition. Donc c'est la raison qui explique qu'on ne s'est pas déposé. Mais quand il y a des collègues qui viennent encore massivement pour signer, ils trouvent qu'il y a un engouement. Mais on les laisse signer. Parce que tout simplement, il n'y a aucun député qui soit du FCC, qui soit du CASH comme de l'opposition, ne peut accepter que sa circonscription électorale souffre. Qu'il n'y ait pas d'école, qu'il n'y ait pas de centre de santé, qu'il n'y ait pas de routes. Tous, on veut qu'il y ait des développements.
Gratien de Saint-Hirassan, donc vous nous confirmez ici que il y aurait bel et bien des députés du FCC en masse qui signent cette pétition.
Ils sont nombreux. D'ailleurs, je suspecte même les collègues André Tambo. Lui aussi, il aurait signé. Je le suspecte parce que j'ai vu un nom qui lui ressemble. Mais je ne confirme pas. Mais j'ai vu quelqu'un comme lui aussi signé. Donc, ils sont nombreux. Et les gens du FCC, la plupart jouent double rôle. Ils jouent double jeu parce qu'ils savent qu'ils ont besoin du développement. Et ils sont pris en otage par le système FCC qui les torture nuit et jour. On les menace de mort. On les menace à tout moment. On connaît ce qui se passe. Mais la période d'intimidation, elle est passée.
Merci.
Il faut laisser les députés libre dans sa conscience.
Merci.
Pour les actions.
Merci Gratien de Saint-Nicolas Irachan. André Tamboué-Katamboué, pour vous, ce commentaire de David Massandi.
Maître David Massandi, depuis Chabunda, dans la province du sud de Kivu. La question d'aujourd'hui, cela se prouve à suffisance que les signataires de cette pétition ont compris que l'instabilité des institutions est le fruit de ces bureaux. Alors, l'opportunité est offerte au président de comprendre que le FCC n'a pas une majorité parlementaire juridique, d'où il y a possibilité de requalifier cette majorité pour faire décoller le pays. Et il faut également faire de même à celui du Sénat.
André Tamboué-Katamboué, député national et cadre du PPRD, parti membre du Fonds commun pour le Congo. Alors, pourquoi le bureau de l'Assemblée nationale et les députés FCC parlent de corruption et pourquoi le chargé de réception de courrier est-il introuvable?
Je remercie d'abord notre auditeur qui a judicieusement choisi sa question et je vous remercie également pour la pertinence de votre complément du questionnement. Il faut répondre carrément, André Tamboué n'existera jamais dans les camps de la trahison de notre constitution pour l'avoir votée judicieusement le 18 décembre 2005. Je ne signerai rien qui soit contraire à notre constitution et à mon âme et conscience à cause de ces 7 000 $. Je ne peux pas. Donc, je rassure l'honorable irakien et je réponds à notre auditeur que l'institution Assemblée nationale ne peut pas être à la base de la déstabilisation institutionnelle pour la bonne raison que la seule institution avec laquelle elle est appelée à collaborer au quotidien, c'est le gouvernement de la République et la collaboration est au bon fixe. Donc, nous ne pouvons pas être la clé de la déstabilisation. Au contraire, si vous le regardez bien, la clé de la déstabilisation et du tremblement des institutions au Congo maintenant, c'est celui qui a juré respect, fidélité à cette constitution. Je voulais rassurer, aucun député intègre de FCC ne peut signer cette pétition et ne l'a signée. Je confirme, parce que vous avez vu 305 députés signer. Excepté ceux qui sont en déplacement et dans les hôpitaux. Donc, 305 ont signé la motion de soutien au bureau.
Pourquoi le chargé de courrier est-il introuvable alors?
Les chargés de courrier sont là, il ne faut pas suivre. Les collègues irakiens, pour le citer, il a écrit le 3 novembre une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale pour lui dire si on n'a pas augmenté de plus de 2 000 $ son salaire, il va conseiller les députés à ne pas voter les budgets. Quel est l'instrument clé pour le développement de ce pays? C'est le député qui est intervenu tout à l'heure, qui dit que pour qu'il vote les budgets qui doit développer la nation, il faut qu'on augmente son salaire. C'est celui-là qui vient apprendre aux membres du bureau que vous bloquez les actions de contrôle parlementaire, alors que vous avez vu
c'est le député de l'opposition qui a interpellé le ministre Azarias Rubiroy ici sur la question de Minembwe. Le débat était ouvert.
André Tamboué, pour vous, le bureau de l'Assemblée nationale actuelle n'est réprochable sur aucun délit.
Sur ce que l'honorable Iratienne a dit, il n'y a aucun délit, aucune faute de gestion dans, qu'on peut attester sur la gestion de l'actuel bureau. Aucune faute, et je mets quiconque en défi pour prouver ça.
Merci André Tamboué Katamboué. Alphonse Maïndo, pour vous, cette réflexion de Gracia Bakajika.
C'est Gracia Bakajika depuis la ville de Kisamani. Je soutiens totalement cette initiative que l'Assemblée nationale puisse reprendre sa couleur de servir la nation. La présidente Jalil Mabunga et son bureau n'ont pas réussi à conduire et gérer cette institution à cause des intérêts égoïstes. Ils peuvent partir à retraite politique comme souhaite l'être. Si le bureau tombe, il faut déjà s'attendre à une division pour faire du FCC. Mais si le vrai que les signatures de cette pétition sont les fourmis de la corruption, il a régir à la justice de trancher cette situation. Au cas où la justice constate qu'il y a des prises de la corruption, je crois que les initiateurs de cette pétition seront sanctionnés, même perdre de leur mandat.
Docteur en sciences politiques de l'Université de la Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani en RDC, Alphonse Maïndo, votre commentaire.
Bon, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier mon compatriote et voisin à Kisangani de sa question. Mais vous savez, ce qu'on reproche évidemment au bureau de l'Assemblée, tous les mots qu'on lui reproche là, c'est en fait les mots de notre société. Le gouvernement est frappé par les mêmes mots, le président de la République est rongé par les mêmes mots, les différentes entreprises publiques sont rongées par les mêmes mots. Donc je suis un peu étonné que l'on ait une mémoire si courte de ne pas se rendre compte que c'est un phénomène général.
Alors, professeur, ah oui, justement, faut-il, parce que tout le monde est plus ou moins dans le même sac, faut-il ne rien faire ou commencer aucune action nulle part?
Non, justement, c'est là que je voudrais finir pour dire, voilà, si l'on veut véritablement combattre les maux de ces pays, les solutions sont connues. On ne peut pas combattre le mal par le mal. Voyez-vous, on ne peut pas reproduire les mêmes mécanismes que l'on décrit, que l'on a toujours décrié, pour essayer de se faire. Alors, parce que là, maintenant, ce à quoi on assiste, c'est quoi? C'est que on politise la justice, on politise les institutions publiques, la DGM, la CNI, tout ça, et alors que c'est ce qu'on contestait avant. On utilise la corruption, etc. Tout le monde fait la même chose. Si l'on veut vraiment changer, et je voudrais ici faire une petite anecdote pour dire aux gens, quand vous taillez un habit sur mesure, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y aura un moment où cet habit soit ne va plus vous convenir parce que vous n'avez plus du poids ou vous avez perdu du poids. Et donc, si vous n'avez plus du poids, ça va vous étouffer. Ou si vous avez perdu du poids, ça va devenir trop large et les gens vont commencer à se moquer de vous. Et donc, il faut qu'on respecte les règles de la gestion aussi bien au Parlement, à la présidence, au gouvernement, partout, on doit faire ça. Quand moi je regarde la manière dont ça fonctionne, chacun essaie tout simplement de regarder son propre intérêt. C'est pour ça que j'ai aimé tout à l'heure la question d'un des auditeurs qui a parlé de l'intérêt du peuple. Dans tout ce qu'on voit là, le plus grand oublié, c'est simplement le peuple congolais. Tout le monde est là pour se positionner politiquement. Il ne s'agit pas de se mettre là pour dire, voilà, je voudrais servir la nation, je voudrais qu'il y ait mieux. S'il y avait un débat pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer les recettes de l'État, de manière à mieux payer les fonctionnaires, de manière à améliorer les conditions de nos militaires qui sont massacrés à l'Est, qui ne peuvent pas se défendre contre l'ennemi à l'Est. Comment on peut faire pour améliorer les conditions de sécurité de nos populations qui sont à l'Est et tout ça? Ça, je serais tout à fait, si vous voulez, je soutiendrai à 100%. Pour moi, tout ceci me ramène à la dialectique du maître et de l'esclave, de Hegel. Ça signifie tout simplement que les gens vont se battre pour la reconnaissance. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est vraiment une lutte à mort pour la reconnaissance.
Merci.
Kabila veut être reconnu comme le maître du Congo Et tu sais qu'il dit aussi qu'il faut être reconnu comme maître du combat. Et du coup, alors, les deux se battent, et chacun utilise ses lieutenants et utilise tous les moyens dont il dispose.
Merci Alphonse Maindo. Notre débat est arrivé au moment de la conclusion. Alors, Gratien de Saint-Nicolas Iratchan, vous avez quelques secondes pour conclure ce débat. Alors, si jamais votre pétition et l'action devant le Conseil d'État n'aboutissent pas, quel va être le comportement du groupe des pétitionnaires?
Bon, j'ai conclu en disant que la pétition, c'est un acte réglementaire. Il n'y a pas 7 000 $, il n'y a pas tout ce qu'on cite. Si quelqu'un a des preuves, que ce soit Tamboué, que ce soit quelqu'un d'autre, qu'il saisisse la justice et que la justice fasse son travail là. Mais aussi, ils ont voté, ils m'ont dit une motion de 305 personnes, c'est pas de soutien. Ça n'existe pas, c'est encore une violation des lois. Les lettres que j'ai écrites, j'ai écrit la première lettre au nom de CVC, c'est le collectif des députés de Vessie Province, c'est pour qu'on paye les arriérés des frais de fonctionnement. Et ça, c'est pour les bureaux qui gèrent, ce n'est même pas moi. Deuxième lettre que j'ai écrite, j'ai demandé au bureau pourquoi les initiatives parlementaires ne sont pas programmées. Donc ceux qui les vantent là, j'ai fait même porter plainte contre lui pour diffamation, pour attaque personnelle. Donc ce qu'il fait, ce n'est pas correct. Et aussi je rappelle, le format réduit, c'était 65 personnes dans la salle.
Concluez,
pour la plénière.
Je suis en train de conclure.
Le format réduit, c'était 65 personnes dans la salle. Mais le groupe parlementaire n'arrive pas à 65. Il n'y a pas eu plénière, donc honorable Pouela a raison de saisir la justice. Et aussi, la déchéance de Kabound. Pourquoi ce ne sont pas les groupes parlementaires qui ont déchu Kabound? Mais il y a eu une plénière où il y avait plus de 400 députés qui ont déchu. Donc il y avait une irrégularité aussi. Donc ce n'était pas une raison, cette affaire de Covid.
Merci.
Et j'ai conclu, je chute à disant que ce soit la sécurité, que ce soit les salaires, la situation sociale que parlent les professeurs, en tout cas, pour les recadrer, le gouvernement, c'est notre émanation, il faut commencer par remettre l'ordre au bureau de l'Assemblée nationale et après nous pouvons contrôler le Premier ministre et le gouvernement.
Merci, Gratien de Saint-Nicolas Iratchan. André Tamboué Katamboué, on sent visiblement que le camp anti-pétition n'a pas apprécié le camp de la pétition. Y a-t-il moyen, selon vous, de concilier tous les députés et que le travail soit fait désormais pour l'intérêt de la nation seulement?
Effectivement, je crois que depuis la dernière plénière, tous les députés ont compris, peut-être l'honorable Iratchan est encore en dehors de ce camp-là. Mais tout le monde a compris que l'actuel bureau bénéficie de la confiance de notre chambre et donc il n'y a pas d'autre issue que de rentrer dans le règlement. L'honorable Iratchan a effectivement écrit une lettre le 3 novembre, je confirme et je précise, demandant l'augmentation des salaires des députés avant le vote du budget. Ce qui voudrait dire qu'il veut que nous nous occupions de nous-mêmes, de nos ventres, au lieu de nous occuper de la population. Il est de l'opposition et que le peuple comprenne qu'il a voté, il l'a reconnu. Donc pour nous, le reste c'est de rester dans le camp de la résistance et il n'y a aucune issue que dans la Constitution, toute violation de la Constitution rencontrera l'opposition de ceux qui sont dans la passion du Congo.
Merci André Tamboué Katamboué. Pour conclure pour vous, professeur Alphonse Maindo, avez-vous l'impression que la tranquillité peut revenir dans les institutions de la RDC et de façon particulière à l'Assemblée nationale?
Je voudrais bien que ça soit le cas, mais tel que ça s'annonce là, on est parti pour une détention de plus en plus forte et je crains que le pire soit devant nous avec ce qui se passe en ce moment-là. Et je crois que nous devions nous préparer à des jours beaucoup plus sombres. La dernière lettre que j'ai pu lire dans les journaux ici du président sortant, Joseph Kabila, c'est presque un avertissement, j'allais dire plutôt une menace pour ce qui concerne les violations des accords qui ont été passés entre eux. Donc, je crains vraiment. J'espère que chaque camp a vraiment bien fourni ses armes et qu'on va pas, on va pas assister comme ce qu'on a vu dans les années 60 et nous sommes dans une période charnière. Justement, c'est là que s'est passé les grandes choses. Et là où les États-Unis sont préoccupés par la transition d'un nouveau président qui va arriver, c'est entre novembre et janvier. On aura le fin mot, à mon avis, de cet affrontement inédit entre les deux partenaires au pouvoir. Il fallait simplement faire la cohabitation et non pas forcer un mariage contre nature.
Merci Alphonse Maindo, espérant que toutes les prédictions sombres ne tombent pas sur la République démocratique du Congo. Merci à vous tous les trois messieurs, Polydor, Basunga, Guimate et Axel Goncho m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba C'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.